Bonjour, Laurent Covin du Collège La Marquisane, professeur de lettres ou de français, on ne sait toujours pas. Voilà, je suis sur ce collège. C'est ma première année dans ce collège en tant que titulaire. J'avais déjà fait un remplacement il y a 2 ans. Et ça fait 8 ans que j'enseigne le français.
Bonjour, alors Odile Vernozzi, professeur au Collège La Marquisane aussi en français. Et professeur supplémentaire dans le réseau, puisqu'on est en REP plus maintenant. Et donc j'y suis depuis 2006, enfin je suis professeur supplémentaire depuis 2006, titulaire du poste, et avant ça j'étais déjà dans le collège en tant que contractuel et voilà.
Donc on va vous présenter notre projet interdegré, notre projet mythologie qui concerne le réseau Toulon 2. Donc un projet où beaucoup de classes investissent aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et avant de commencer par vous présenter ce projet, on va laisser la parole au chef d'établissement qui devait être ici aujourd'hui, mais qui a un empêchement. On lui laisse la parole.
Donc, comment développer des actions au sein d'un réseau, notamment d'un réseau REP+, et en particulier celui de la Marquisane. Donc, Odile et Laurent vous feront un petit historique un peu du travail en interdegré qui se passe sur le réseau. Dans tous les cas, moi, je vais vous parler de ce qui se passe depuis 2011, un peu la genèse des choses, un peu ce qu'on a pu installer, ce que j'ai pu installer sur le réseau pour que multiples actions et dans multiples domaines puissent se faire et se développer et vous montrer que oui, c'est possible. Voilà. Donc, en 2011, lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré deux collègues, qui sont devenus des amis, comme quoi tout arrive. Un IAIPR, une IAIPR, Frédéric Cauchy-Bianchi, et un IEN de Toulon 2, Patrice Lemoine. Et nous sommes partis, voilà, sur ce réseau éducation prioritaire qu'est la Marquisane. À l'époque, ça s'appelait Éclair. Voilà, sur le constat que les actions ne peuvent se développer, et moi c'est ce que je préconisais déjà dès le départ, et voilà, on s'est retrouvés avec les mêmes envies, les mêmes constats, que sur un réseau, les choses ne peuvent se développer que si les acteurs sont en toute confiance. Et quand je dis les acteurs, ce sont tous les acteurs, quelle que soit la soi-disante chaîne hiérarchique, et on verra qu'effectivement cette chaîne hiérarchique, c'est ce que l'on a voulu nous défaire, et donc de créer le sentiment et de créer les conditions favorables à un travail avec des gens qui apportent chacun leurs compétences. Donc dans un premier temps, nous avons essayé de développer, de mettre en relation les acteurs du réseau sur le terrain, qui sont les enseignants, en se disant voilà, on ne peut créer des actions que seulement si les acteurs sont amenés à se fréquenter et à partager des idées, à partager ce qu'ils vivent au quotidien, donc les programmes, etc., etc. Mais finalement, on va là-dedans et on va nécessairement être obligé, enfin je le pense, de par la réforme et de par ce nouveau cycle 3, arriver vers cela. C'est-à-dire que à partir du moment où les programmes vont dans ce sens-là, il va falloir partager ensemble et construire ensemble une progression sur le premier et le second degré, et donc nécessairement finalement se côtoyer. Ce que l'on fait nous déjà sur la Marquisane, donc avec tout ce que vous allez découvrir autour d'un projet qui s'appelle le projet Mythologie. Donc l'idée même de cela, ça a été de en tant que pilote, copilote. Et on avait installé avant même les textes sur les REP+, notre IAIPR référente comme copilote, et on l'a affirmé, on l'a signé dans tout ce que l'on a fait, même si ce n'était pas au cœur des choses à l'époque. Et vraiment, d'abord, une concertation et un réel triple pilotage, c'est-à-dire qu'une réflexion sur ce que l'on peut bonifier sur le réseau avec nos trois vues différentes, chef d'établissement, IEN et IAIPR. Et puis, développer parallèlement à ça toutes tous ces moments où les acteurs du terrain, que sont les enseignants, vont pouvoir avoir tout au long des années et de leur soumettre nos problématiques et qu'ils en prennent qu'ils les prennent eux avec leur regard et leurs compétences et proposer des actions qui leur appartiendraient évidemment. Et un troisième volet, un troisième niveau qui est le niveau organisationnel, l'idée même que de se dire que les actions ne peuvent se développer et on ne peut demander à nos acteurs du terrain de développer les actions uniquement seulement s'ils restent dans leur domaine c'est-à-dire la pédagogie et non pas la logistique qui, on le sait, ralentit beaucoup de choses. Et les collègues qui rentrent dans ces actions, et on le voit souvent, notamment dans le premier degré, ils sont tous dans les mêmes actions. Ce sont les mêmes qui sont dans différentes actions, plutôt, par exemple. Pour éviter de les épuiser, pour éviter, parce que avant cela, on n'avait pas le 1.1, c'est-à-dire la décharge horaire en REP+, on a, nous, imaginé sur le réseau, nous pilotes, ce qu'on appelle le GTO, le groupe d'action, groupe de travail opérationnel. Voilà. Ce GTO est chargé de mettre en œuvre toutes les actions, d'organiser toutes les actions et toute la logistique qui va autour de des actions que l'on mène sur l'interdegré. C'est piloté, animé par un coordinateur du réseau et mon principal adjoint. Voilà. Autour de ce GTO, un autre cercle qui sont les enseignants supplémentaires qui, eux, vont mettre vraiment la relation entre le premier, second degré et les acteurs. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où les acteurs se voient, où on essaye de multiplier ça au maximum, en tous les cas, au quotidien, on a des enseignants supplémentaires qui vont faire ce lien et qui vont, en fonction de leur domaine de compétences et les domaines et les missions qu'on leur a données, développer cela. Vous verrez dans le projet de mythologie, Claude Manchet fait un très gros travail. Donc ce travail après va sur le GTO. Le GTO va avoir la vision de l'ensemble des projets, voir la faisabilité, voir s'il n'y a pas de télescopage entre les uns et les unes des actions pour que tout se passe le mieux possible. Et puis on a les sciences aussi, on a Arnaud Larsenet qui a été spécifiquement recruté pour cela, pour développer les sciences, un projet qu'on a mis en place, le développement des sciences il y a 5 ans, qui au bout de 5 ans se voit aujourd'hui, par exemple, je faisais le bilan il y a une quinzaine de jours avec un collègue. On en est déjà à 70 interventions premier second degré, échange premier second degré uniquement sur l'année. C'est énorme. Et ça pour les sciences, on a ça pour la maîtrise de la langue, on a ça pour la radio, pour plein de projets. Et c'est ce qui va faire ce va-et-vient et cette continuité du parcours que l'on veut avoir sur le réseau La Marquisane. Voilà, avec le développement cette année, je suis en train de travailler sur le développement des arts, d'un projet qui s'appelle Passeur d'art, une maison de la musique au sein du collège et du développement musical. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a pris naissance déjà il y a 5 ans lorsque j'étais là, et parce qu'on accueille régulièrement les concerts du Festival de Toulon, et que accueillir un concert pour accueillir un concert, ça n'a pas de sens. Voilà, ce qui était intéressant, c'était de construire au fil de ces années cette relation premier-second degré, et durant ces 5 ans, il y a eu tous les ans, voilà, un va-et-vient entre les acteurs du premier et second degré avec des élèves de primaire et de maternelle qui venaient au collège assister à des moments partagés de musique autour de la création sonore, autour d'une œuvre, et comme c'est cette année, une œuvre sonore commandée à un compositeur. Voilà donc un peu, en quelques minutes, ce que, comment et ce que l'on peut faire sur un réseau. Encore faut-il que, voilà, c'est ce que j'essaye de défendre et c'est ce que j'essaye de porter depuis toutes ces années. C'est l'idée même du développement d'un leadership, mais en tant que réseau horizontal, c'est-à-dire un réseau où tous les acteurs de ce réseau sont à la même échelle et que chacun apporte sa compétence. Chacun est expert dans sa compétence et est reconnu par les membres, autres membres du réseau à ce titre-là, et non pas sous une hiérarchie, sous une... Et ouais, quel que soit, voilà, mon domaine de compétence, c'est l'organisationnel, c'est le juridique, c'est le, voilà, tout ce qui concerne la responsabilisation autour des élèves, autour la responsabilité des élèves, des personnes, des biens, des locaux, et les financements, etc. Ça relève de ma compétence. La pédagogie relève de la compétence des enseignants et certainement pas de la mienne. Donc je pense que Odile et Laurent vous le diront, à aucun moment je n'interviens jamais dans la pédagogie. Alors après, je donne mon point de vue de pédagogue parce que j'en suis aussi, c'est ce que j'aime, mais je les renvoie vers des questionnements parce que, voilà, avec mon expérience, mais comme là d'égal à égal, hein, je les renvoie et après ils en font ce qu'ils veulent, mais je n'interviens jamais dans leur choix pédagogique. Mes seules interactions sont de l'ordre de, voilà, les questionner pour qu'ils aillent de l'avant et que les projets avancent. Et peut-être et certainement, je l'espère en tous les cas, vous verrez que l'évolution de ce projet de mythologie, voilà, ce sont l'ensemble des acteurs et des gens qui tournent autour de ces projets qui font avancer, qui font bonifier cette action au fil du temps et évidemment en direction des élèves et toujours pour les élèves. Voilà, donc chacun est expert. C'est un peu, voilà, moi je le dis souvent, on a toujours cette vision de, effectivement, de l'élève, voilà, le climat sécure de l'élève, la coopération entre élèves, et lorsqu'on parle après des acteurs qui travaillent autour de ces élèves, tout ça n'existe finalement jamais plus. Et pourtant, c'est ce que j'essaie de défendre, et j'espère que vous en aurez un exemple aujourd'hui, un bel exemple. Il n'y a que comme cela, en prenant en considération que la coopération, le système coopératif, lorsqu'on travaille en système coopératif, c'est de dire, voilà, chacun à un moment donné, chaque élève peut devenir expert. Si nous, à notre niveau, on ne réagit pas de la même manière, et c'est bien ce que je défends sur l'idée de ce réseau horizontal, ben on peut pas avancer, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se bonifier, et chacun ne se bonifie pas, et chacun n'avance pas à l'intérieur même de ce réseau. Donc le développement professionnel est, à mon sens, la clé de tout ce qui peut se passer en direction des élèves. Et lorsqu'on parle de développement d'action, on va parler d'EPI maintenant avec la réforme, on va parler du vrai sens des AP dans la réforme, on va parler de tout cela. La Marquisane, nous on le voit bien dans tous les cas, c'est déjà en route, c'est déjà fait depuis quelques années. Cette réforme va nous obliger, et j'en ai parlé depuis quelques temps aux équipes, en conseil pédagogique, voilà. On va travailler réellement maintenant sur baliser le parcours d'un élève, y réfléchir nous on avait des actions voilà, qui, même si j'essaye toujours d'avoir cette cohérence dans toutes ces actions que l'on mène, en tous les cas là on va se poser à un moment donné, et il faut toujours se poser à un moment donné, c'est le bilan qu'on a à faire et c'est le bilan que je demande régulièrement à mes équipes. Voilà, un diagnostic, une action, un bilan et voilà, une évolution dans le temps. Donc j'espère que, mais pour avoir déjà vu un peu le travail, le pré-travail du prédit et de la présentation que vont vous faire Odile.
Voilà, donc du coup on va partir sur le projet Mythologie. Donc je vais vous faire un petit historique quand même au départ pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Donc sachant qu'en 2006 il y a eu la création du réseau, donc qui comprend quatre écoles, le collège et le lycée de secteur. Et donc à partir de là, il a fallu commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une mise en réseau. Donc la question de la liaison. Et surtout, comment assurer la transition école-collège de façon sécurisante pour les enfants et pour les familles. Donc, on a travaillé sur les rythmes scolaires. On a donc instauré des blocs d'une heure et demie en français, en maths, en histoire géo. Donc, pour essayer de lisser un petit peu avec le premier degré. Donc, les blocs ont été constitués sur les sixièmes. Donc, c'était pour assurer cette transition. Il y a eu une volonté de développer une culture du projet pour faire entrer les enfants et les familles dans le collège avant la sixième. Donc on proposait des projets déjà avec les CM2 et une ouverture donc du collège lors des sessions d'école ouverte, surtout en fin d'année, pour les élèves de CM2. Donc les futurs sixièmes, on les fait rentrer dès le mois de juillet maintenant, donc la première semaine des vacances. Et donc ça leur permet de faire connaissance avec les collègues et avec les locaux. Plus particulièrement donc en français, on s'est posé la question de comment appréhender et remédier aux difficultés des élèves par rapport à l'écrit et à la lecture, puisqu'on s'est rendu compte que les élèves arrivés en sixième, confrontés à des textes plus résistants, avaient des difficultés. Et d'autre part que les écrits des fois manquaient de cohérence parce que la cohérence n'était pas suffisamment travaillée, donc on avait déjà commencé à lancer des projets là-dessus. En 2008, on a lancé les premiers regards croisés, donc les collègues du collège allaient en classe de CM2, les collègues de CM2 venaient sur les classes de 6e, donc pour voir un petit peu les gestes professionnels, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écriture, de la lecture, comment vous faites. Est-ce qu'on peut prendre des outils, est-ce qu'on peut essayer de faire une progression pour pas déstabiliser les élèves. Donc en école, dans les écoles, il y avait déjà à ce moment-là un projet sur le principe du travail de Boismard avec donc lecture des feuilletons d'Hermès. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le principe. Donc c'est lecture des feuilletons et discussion, donc débat littéraire à partir des feuilletons. Donc c'était déjà mis en place par un chargé de mission en 2008. Et parallèlement, en école et en collège, il y a eu un travail sur le sujet lecteur qui a été lancé par l'IPR de lettres, donc dont Monsieur Dessault parlait, donc Madame Cauchy-Bianchi, et soutenu par les professeurs supplémentaires du réseau, et notamment donc Claude Manchet. Donc l'objectif, c'était effectivement de travailler sur des textes patrimoniaux dès les CM1, CM2, voire des fois CE2. Ça dépendait de la volonté des professeurs, dans plusieurs écoles et pas que les écoles du secteur d'ailleurs. Donc lecture de textes patrimoniaux et débat littéraire. Donc là, on va vous... On l'a dit à peu près. Voilà, on va vous laisser écouter un témoignage d'un directeur d'école, un petit peu sur tous ses projets.
Bonjour, je m'appelle Thierry Chiconi, je suis le directeur de l'école Jacques-Yves Cousteau qui fait partie du réseau REPLUS du collège La Marquisane à Toulon. Dans ce réseau, il y a un travail interdégré qui est mené depuis 6 à 7 ans. Il engage toutes les écoles de notre réseau relié au collège La Marquisane. Toutes les actions dans ce réseau sont validées par trois pilotes. Madame Ripoll, notre IEN de circonscription, Monsieur Dessault, le principal du collège La Marquisane, et Madame Cauchy-Bianchi, l'IAIPR référente. Ce travail interdegré se pratique au niveau de la maîtrise de la langue et des disciplines scientifiques. Il y a des visites et des déplacements de nos élèves au collège, et des visites et des déplacements d'enseignants du premier degré dans le second degré, et aussi des visites des PLC dans nos classes. Cela permet aussi d'avoir un regard croisé sur nos pratiques, de les harmoniser, ou c'est au moins ce que l'on vise. Le plus pour nos élèves nous paraît évident. Ce sont des projets qui mettent du sens, qui sont motivants, comme le travail autour du sujet lecteur, c'est-à-dire du débat littéraire autour de textes patrimoniaux résistants. Il y a aussi le projet mythologie avec écriture de pièces de théâtre. Ces projets permettent de constituer une culture commune pour les élèves, une meilleure connaissance du collège et des professeurs par ces mêmes élèves. En termes d'apprentissage, ces projets permettent d'avoir des enfants plus motivés pour adhérer à nos séances que l'on propose, car ils savent vers quoi on les guide. C'est le propre de tout projet en somme. Nous avons aussi des professeurs supplémentaires présents dans notre réseau qui proposent les projets, nous accompagnent à leur développement. Cela nous facilite beaucoup notre travail et cela permet de créer du lien entre le premier et le second degré. Ce lien peut se faire bien sûr sans eux, mais leur présence facilite grandement notre travail. Ce travail interdegré permet aussi une meilleure connaissance de nos degrés respectifs. Avant, on sentait un petit clivage entre le premier et le second degré, une méfiance. On ne savait pas très bien ce qu'il se passait dans les classes, alors que maintenant, nous avons pu voir ce qu'il se passait. Cela aussi rompt un peu un isolement que nous avions dans nos écoles. Ce travail avec les différentes écoles et ce collège permet un travail en commun bénéfique pour tout le monde. Nous avons des groupes de travail et des formations interdegrés qui nous permettent de planifier et d'enrichir les projets et d'échanger entre nous, ce qui est très important au niveau de ce réseau. Cela facilite aussi grandement la création de ce nouveau cycle 3 CM1, CM2, 6e que l'on vit nous depuis longtemps et dont on connaît tout l'intérêt aussi bien pour les enfants que pour les enseignants.
Voilà, donc il était un peu malade, hein, donc excusez-le s'il est en train de lire. Voilà, donc à partir de là, pour continuer un petit peu l'historique, en 2011, on a un nouveau projet, donc c'est le projet mythologie qui s'est mis en place, donc qui au départ était un projet de classe, donc c'est une collègue qui voulait faire ça et qui a demandé à une école de participer, donc c'était une classe de 6e et deux classes de CM2 seulement, et puis après on a élargi. Donc l'objectif du projet, c'était déjà de travailler sur le partage des compétences, donc avec un professeur d'art plastique qui s'est déplacé dans les classes ou qui a reçu les classes au collège. Un travail aussi donc de partage avec un professeur étiqueté lettres, et en particulier lettres modernes et lettres classiques à l'époque. Et donc il y avait un travail, donc le choix de la mythologie, je dirais, était presque évident, puisqu'il y avait ce travail sur le feuilleton d'Hermès qui courait depuis quelques années, et au programme de 6e, il y a la mythologie, donc c'était tout trouvé, tout facile. Donc on va vous présenter la première version du projet, qui était un projet intitulé « Écrire notre Odyssée ».
Donc ce projet avait pour but l'écriture, la coécriture en fait entre les CM2 et les 6e d'une nouvelle aventure pour Ulysse. Il devait rencontrer un nouveau monstre. Et donc dès le départ, les 6e ont d'abord étudié l'Odyssée en classe et ensuite a eu pour objectif d'écrire cette nouvelle aventure et de faire rencontrer, de présenter cette rencontre entre Ulysse et ce nouveau monstre qui était imaginé en art plastique. Donc les élèves ont travaillé d'abord de leur côté, puis ont arrêté l'écriture de cette nouvelle aventure à la description du monstre. Les textes sont arrivés ensuite chez les CM2, donc les classes ont travaillé sous forme de binôme. Et les textes sont arrivés ensuite chez les CM2 et ils ont dû à leur tour raconter le combat d'Ulysse contre ce monstre mythologique qui était inventé par les sixièmes et de réaliser aussi eux de leur côté, à partir des descriptions des sixièmes, le monstre mythologique donc imaginé par les élèves de sixièmes. Donc c'est vrai qu'on a eu ce double apport des deux côtés, du côté du primaire et du côté du second degré, qui a été assez fructueux, et on s'est rendu compte de la richesse des textes et de la richesse des réalisations plastiques, parce que l'écriture permettait d'enrichir la création artistique, la création plastique, et la création plastique enrichissait aussi l'écriture. Dans la description, on s'est aperçu que quand les élèves allaient en art plastique, ils s'inspiraient de ce qu'ils avaient écrit en français, et quand les élèves allaient en français, ils s'inspiraient de ce qu'ils développaient en art plastique avec des collages, des montages, etc. Donc on a quelques quelques images à vous, quelques photos à vous montrer de ce travail, donc en coopération, puisque les élèves se sont aussi rencontrés pour coécrire ces histoires et pour réaliser ces monstres mythologiques. Donc là, ce sont des élèves de 6e accompagnés d'élèves de CM2, donc ils travaillent par groupe. Donc les collègues de primaire et les collègues de collège se sont mis d'accord pour réaliser des groupes par compétences, hein, essayer de rendre les élèves autonomes sur ce travail. Et donc là, ils sont au collège, dans la classe d'art plastique, où ils réalisent les collages pour constituer ces monstres mythologiques. Donc là, vous avez eu un exemple de la carte d'identité du monstre mythologique d'une élève qui a été réalisée donc en français et en art plastique, avec ce détail comment est ce monstre, essayer de lui trouver une généalogie, etc. Et puis vous avez son texte où le monstre est décrit, hein, le monstre au grand bâton qui avait un grand pouvoir, pouvait transformer en pierre tous ceux qui croisaient son regard ténébreux. Oclotasme, hein, son nom, vivait dans une île étrange, avec la description de l'île, etc. Et vous remarquez bien que cette description s'arrête. Ulysse eut tellement peur qu'il alla de l'autre côté de l'île pour réfléchir à un plan. Et c'est à ce moment-là que le texte est donné au CM2 pour imaginer la suite. On peut vous faire écouter rapidement, peut-être, on va voir si on a le temps, peut-être pas en entier, le photorécit de l'école de la Tauriac qui fait partie du réseau, qui a mis en voie un récit, enfin plusieurs récits, là on vous en propose un, et vous avez aussi les dessins des élèves.
Avoir échappé aux écueils à Caribe et à Scylla, nous abordâmes vers une petite île nommée Tiniland. Tout semblait beau, tout semblait parfait. Il y avait des cascades de toutes les couleurs, des fontaines d'élixir de vie, une pluie d'or et d'argent. On ne comptait pas une seule maison pauvre. Le ciel était de couleur bleu turquoise. Cet endroit possédait des chevaux ailés. Quand mes compagnons et moi avançâmes un peu plus loin sur l'île, on vit un ciel rouge et une nuée de chauves-souris. Des carcasses d'animaux jonchaient le sol ainsi que des squelettes humains. Des âmes criaient à l'aide. On entendait aussi des grincements. Du sang recouvrait le sol et formait une boue gluante. Il y avait aussi une odeur nauséabonde. Tout à coup, des fauves surgirent de nulle part. Ils se dirigèrent vers nous. Nous courûmes, jusqu'à ce que nous arrivâmes vers un donjon sinistre. Les fauves partirent en courant. Le palais était gigantesque. Soudain, un monstre vraiment affreux sortit de ce donjon. On l'appelait Adjina. Elle comptait 4 yeux de couleur violet, bleu, vert et noir. Ses cheveux abritaient des araignées. Ses peaux étaient vert caqué. Elle possédait des crocs en guise de dents. Ses jambes ressemblaient à des bâtons. Elle en avait 3. Sa graisse débordait de ses vêtements. Elle nous regarda d'un salaire et nous dit
« Que faites-vous sur mon île ?»«
Nous cherchons à manger, » répondis-je.
« Ah non, j'ai compris. »«
Ah bon ?»«
Vous êtes la livraison de nourriture que j'ai implorée à Jess, à table. »«
Attendez, on peut discuter tranquillement. »
Non, pas le temps.
Sa bave dégoulinait car elle avait faim. On aurait aimé courir, mais on n'avait aucune chance de s'en tirer. Elle avait recouvert le grillage du champ avec de l'électricité. Je dis donc à Adjina la terrible, je vous propose de faire un combat. Si vous gagnez, vous pouvez nous manger. Si c'est nous qui gagnons, non seulement nous vous achevons, mais en plus... Nous pourrons prendre tout ce dont nous avons besoin. Nous nous mîmes d'accord. Un terrible combat allait s'engager entre la créature et nous. Nous espérions qu'Arès et Athéna seraient de notre côté.
La bataille a eu lieu. Mes compagnons et moi essayâmes de la battre. Mais le monstre ne ressentait rien et rigolait. Soudain, elle nous attrapa et nous balança dans son donjon. Elle nous dit « C'est fini pour vous. Dans 2 heures, je vais me régaler. » Sa bave dégoulinait tellement qu'on pouvait pêcher un poisson. Mais avant, un de mes compagnons voulait fuir. Mais le monstre le déchiqueta et le mangea. On était morts de peur. Le monstre nous enferma dans une cage où il y avait des restes d'humains. On était dans une mauvaise situation. Et mes compagnons gémissaient.
Moi, je réfléchissais. Et soudain, une idée me vint à l'esprit. Je pris les restes de squelette pour sculpter une clé et ouvrir la porte.
C'était déroutant.
5 minutes plus tard, nous ouvrîmes la porte et sortîmes. Dehors, les faves bondirent sur 2 de mes compagnons qui moururent suite à leurs blessures. Malgré tout, nous reprîmes notre chemin, mais le labyrinthe nous retardait. On traversa des rivières de boue, de sang, de lave, et nous arrivâmes enfin à la sortie. Athéna apparut et nous dit le point faible du monstre. Puis elle disparut dans l'ombre.
C'était l'eau qui pouvait le tuer. Le monstre arriva alors et le combat commença. Ce fut un carnage, mais je pensais au point faible et pris le peu d'eau qui me restait. Au contact de cette eau, le monstre se transforma en poussière. Nous partîmes alors et reprîmes la mer.
Voilà, c'est bon. C'était la fin.
Et donc ce projet a eu un impact aussi sur les élèves du collège. Et ils ont participé à une action qui s'appelle Parole d'école et qui est une émission de radio sur Radio Active, une radio locale toulonnaise. Et les élèves participent justement avec Claude Manchet, professeur supplémentaire, et disent les textes à la radio. Et c'est une émission qui est assez régulière et une sorte de rituel aussi au collège.
Donc c'était la première version du projet qui a duré 2 ou 3 ans. Et donc le projet après a évolué parce qu'on a voulu chercher des solutions pour redynamiser un petit peu les équipes, pour éviter justement que tout le monde se lasse de faire tout le temps les mêmes choses, et pallier aussi à l'absence de notre professeur d'art plastique qui finalement était dans d'autres projets et plus assez disponible. Et on est parti sur du théâtre, et on a gardé donc quand même la mythologie. Donc la première version du théâtre et mythologie est partie sur les textes, donc vous voyez les premières de couverture, donc 2 ouvrages qui avaient réécrit en pièces de théâtre des mythes. Donc on s'est dit on va travailler le théâtre là-dessus. Il y a quand même certains groupes de collègues qui voulaient travailler sur de l'écriture. Donc on a libre à chacun de faire ce qu'il voulait. L'essentiel c'était d'obtenir une pièce de théâtre à l'issue. Donc ils sont partis des feuilletons Hermès et ils ont donc à partir de certains épisodes transcrit en pièces de théâtre. Donc c'était vraiment une création des élèves. Donc à l'issue de cette année-là, donc il y a eu représentation théâtrale. Donc on vous a mis en photo juste les répétitions. Bon, désolé, le reste était trop sombre pour vous le montrer. Donc il faut savoir qu'au moment des représentations, il y avait sur scène des groupes de 6e et des groupes de CM, CM1 ou CM2, puisqu'on avait déjà élargi au cycle. Donc là, on les voit d'ailleurs, on a des élèves de CM2 derrière. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois déjà pour des répétitions générales. On s'est donc retrouvés à la fin pour les représentations. Les textes de théâtre étaient répartis, en fait. C'est-à-dire que ceux qui avaient choisi dans les livres, donc c'était des pièces en 3 actes, par exemple, et on a découpé. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais pris avec une classe l'acte 1, l'acte 3, et la collègue de CM2 prenait l'acte 2. Donc au moment de la représentation, donc on faisait tourner les élèves en fonction des différents actes. On a rencontré effectivement des difficultés, comme à chaque fois. Donc ceux qui avaient écrit, donc ça a été un gros souci parce que c'était très long, laborieux. Donc on a une collègue qui avait accepté l'écriture mais qui a refusé la représentation. Donc il a fallu se saisir des textes pour les faire jouer par d'autres élèves. Ça aurait été dommage qu'ils ne soient pas joués. On a aussi avec l'écriture eu le problème de la méconnaissance de texte et représentation, c'est-à-dire la mise en scène va supposer un certain nombre d'impératifs, donc les unités de lieu, de temps, si on ne les respecte pas, c'est très compliqué pour ceux qui vont jouer. Donc il y a eu aussi, je vais un peu vite, excusez-moi, hein, mais il y a eu aussi du coup un manque de motivation de la part de certains élèves qui eux n'avaient pas écrit et à qui on demandait de jouer des textes écrits par d'autres élèves. Ils ne voyaient pas l'intérêt de cette... Enfin, ils n'ont pas vu la masse de travail.
Ils voulaient jouer leur propre texte.
Ça aussi. Mais après, ils n'avaient pas... Voilà. Et ils n'ont pas vu la masse de travail qui avait été fournie, donc ils n'ont pas respecté le texte des autres. Donc il y a eu une frustration à la fin de l'année qui nous a poussés à faire évoluer encore le projet. Donc on est reparti cette année, donc déjà avec une demande d'impliquer obligatoirement un professionnel, sachant qu'il avait déjà été impliqué l'année dernière, mais sur une seule classe. Donc là, on l'a rappelé et on a soumis à notre chef d'établissement la volonté de le faire intervenir dans les classes. Alors c'était compliqué, ça coûtait cher, donc il y a eu un refus de le faire intervenir dans toutes les classes, sous la forme qu'on le demandait nous. En revanche, il nous a dit, monsieur Dessault, je veux bien le payer, mais pour qu'il forme les adultes à prendre en main les classes. Voilà. Donc on a eu deux heures de formation très riche.
On a pu faire d'une pierre deux coups, en fait. Les élèves rencontraient un comédien et les enseignants pouvaient être formés in vivo avec les élèves pour travailler sur la voix, le corps. Ça, c'est Claude Manchet qui a fait ce travail avec lui, de commande pour lui demander ce qu'on attendait vraiment de lui. Donc là, vous avez quelques photos de son intervention avec les adultes.
Et donc en grand groupe, puisqu'il y a, vous voyez, beaucoup d'enfants, donc c'est un mélange de CM2, 6e à chaque fois. Et ils proposaient des petites improvisations aussi, donc ils avaient un temps de travail et les adultes encadraient.
Par atelier.
Voilà, donc pour la deuxième version, on a changé aussi les supports, on est parti sur les bandes dessinées des petits mythos. On a décidé aussi qu'il fallait approfondir alors, les petits mythos parce que c'est quand même accessible et c'est facile de transposer, je dirais, une BD en texte de théâtre, puisqu'il y a les bulles, bon, voilà, il y a un certain confort.
Ça reprend l'enfance des dieux, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est autour du personnage de Totor, donc le Minotaure, qui a ses amis qui sont des dieux étant enfants. Donc on reprend cette... Ce thème de la mythologie pour le retravailler sur le théâtre à partir de ces bandes dessinées. Donc là, vous avez les premières de couverture.
Voilà, et comme ce sont quand même des bandes dessinées comiques, et que ça manquait aussi dans la version précédente, le travail sur le comique, donc on a fait un travail plus approfondi là-dessus.
Donc là, vous allez avoir quelques photos de rencontres autour du comique qui a été réalisé entre les élèves de 6e et de CM2. On a constitué une sorte de jeu de cartes avec plein de supports sur le comique. On a essayé de partir de ce que connaissaient les élèves, par exemple, je sais pas, la série Soda avec Kev Adams, des comiques comme Gad Elmaleh, etc., qu'on a mis sur des cartes pour travailler justement les différents types de comiques. Et donc voilà, là vous avez un exemple que diable a-t-il faire dans cette galère, avec repris dans Kev Adams, dans Soda, donc pour que l'élève puisse faire le lien entre ce qu'il connaît et le texte patrimonial. Voilà, donc là vous avez un exemple rapide de la bande dessinée adaptée. Voilà, deux versions d'un même projet, et peut-être juste écouter l'intervention.
Bonjour,
de Claude.
Bonjour, je m'appelle Claude Richer, je suis formatrice du premier degré et je suis actuellement sur un poste de professeur supplémentaire au collège La Marquisane, déchargée de classe. Ma mission concerne essentiellement la maîtrise de la langue et je travaille étroitement avec mes collègues professeurs de lettres du collège et mes collègues professeurs des écoles du réseau. Avec Odile Vernouzi, qui est avec vous aujourd'hui, professeur supplémentaire également, nous concevons dans un premier temps des projets interdegrés concernant les domaines du dire, lire, écrire. Mais si je précise dans un premier temps, c'est parce que les projets, nous les concevons certes, mais au mois de juin, nous les proposons à la lecture de tous les professeurs concernés, de manière à ce qu'ils les lisent, les modifient si besoin et les valident. Laurent Covin, qui est également parmi vous aujourd'hui, a enrichi notre volet travail sur les différents types de comiques, par exemple. Voilà. Même si au départ, le projet est conçu par deux enseignants supplémentaires, c'est après un projet ouvert et défini par tous les membres de l'équipe, puis par la suite validé par les trois pilotes du réseau, c'est-à-dire l'inspectrice de circonscription, le principal et l'IEPR de lettres. Ça, c'est l'aspect conception du projet. Maintenant, il y a toute la partie mise en œuvre qui nécessite une planification très stricte. Ça, c'est fondamental et ça commence par la prévision des temps de rencontre interdegrés institutionnels, c'est-à-dire... Quand dans le premier degré, on élabore le plan académique de formation, qu'on nous a demandé par exemple de remplir cette année dès le mois de mars, comme je travaille aussi avec l'équipe de circonscription de Toulon 2, c'est à ce moment-là que je positionne avec mon IEN, Madame Ripoll, les stages interdegrés dont on aura besoin pour le projet. Bon, il y aura aussi le positionnement des formations ou des rencontres interdegrés mathématiques, par exemple les sciences. Mais bon, voilà, on va rester sur le français. Donc, ils sont fixés, ces stages, en fonction des besoins que l'on connaît bien maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont répartis tout au long de l'année. Et il y a notamment une date qui est positionnée dès le mois de septembre, parce que c'est une première rencontre fondamentale qui va nous permettre de redéfinir clairement les objectifs du projet avec tous les participants. On va redéfinir les compétences à développer chez les élèves et la finalité du projet. Si on vise la réalisation d'un spectacle, par exemple. Alors pour nous, c'est pas forcément le plus important, hein. Nous, c'est la démarche de projet qui est importante. En revanche, pour les élèves, c'est très important parce que ça crée chez eux un engagement avec un objectif final clair. Et puis ça leur permet, du coup, puisqu'ils ont cet objectif final en tête, de mieux s'engager dans toutes les activités satellites, on va dire, les micro-tâches qu'on va leur demander de faire pour la réussite de ce projet final. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on a toujours en tête à la fin du projet quelque chose à présenter aux familles, comme ce que vous avez pu voir par exemple tout à l'heure, le photorécit avec les monstres et les textes mythologiques qui avaient été mis en voix, ou des rubriques radiophoniques avec mise en voix là aussi de leur production écrite diffusée dans une émission de radio. Voilà environ 6 ans que nous travaillons de cette manière en interdegré, avec des projets qui s'affinent, se précisent d'année en année en termes de contenu d'apprentissage, de progressivité. Mais honnêtement, je ne pense pas que cette réussite soit due uniquement à la conception, la planification et l'accompagnement du projet. Je crois vraiment que ça va bien au-delà. Quand on travaille avec les élèves, certes les domaines fondamentaux, mais également le pouvoir de la parole, l'estime de soi, la confiance en soi, comme vous avez pu le voir dans notre projet Théâtre Mythologie, on est au-delà d'un projet de réseau, on est sur un projet de société et on a cette chance immense, vraiment, d'avoir une équipe d'enseignants pleinement engagés dans la réussite de leurs élèves et qui ne comptent jamais leur temps. Elle vient de là, en fait, la réussite. Alors merci à eux tous.
Voilà. Voilà, donc échange, à revenir sur les questions et puis aussi... ça illustre le problème de votre projet, c'est tellement multidimensionnel et réussi dans toutes les directions qu'on dirait qu'il a été fait exprès pour faire plaisir aux initiateurs du projet. C'est intéressant que Michel ait rappelé que c'était quelque chose qui a été fait indépendamment de la réforme. Voilà. Je pense que c'est important. Après, question à poser, parce que vous avez remarqué aussi, ça je vous remercie, vous les remercierez les collègues, de faire entendre des voix multiples. On parlait tout à l'heure de problèmes de liaison entre niveaux, etc., etc. Je crois que ça illustre pas mal un certain nombre de conditions, mais il ne faudrait pas que ça effraie les gens qui sont au point zéro par rapport à ce qui a été présenté. Voilà.